Bon, bien, bienvenue dans le cours En esprit, en vérité. Je suis content j'espère que c'est ce cours-là que vous cherchiez, sinon vous n'êtes pas au bon endroit. Donc ici, ça va être le cours En esprit, en vérité. Et puis, un des avantages qu'il y a à suivre le cours ici, c'est qu'on est filmé. Donc, c'est possible, si vous manquez une leçon, d'aller la revoir sur le site web, peut-être sur la chaîne YouTube de l'Église, je ne suis pas sûr exactement. Et puis, vous allez trouver aussi chaque semaine des copies PDF des notes du cours que vous pouvez aller chercher là aussi. Maintenant, comme je fais à chaque fois que je donne un cours, j'ai une liste d'envoi. Et donc, si vous désirez recevoir le vendredi les notes de cours en format électronique plutôt que format papier, vous devez inscrire votre nom lisiblement et votre adresse courriel. Gérard, est-ce que tu pourrais juste partir ça pour que ça circule, s'il te plaît? Oui. Ça me rendrait service. Voilà. Merci. Mais vous trouviez aussi une copie des notes sur la petite table qui est juste là, où est-ce qu'il y a du désinfectant, où se trouve en fait Mme Paradis, qui devait être absente ce matin, mais elle est là. Bienvenue. Donc, vous pouvez aller prendre une copie des notes là-bas. Ça va? On va aller ensemble dans un mot de prière, puis on va rentrer dans la matière. Père éternel, merci pour... Merci pour le privilège de pouvoir s'approcher de toi, t'adresser la parole, Seigneur, confiant que tu reçois notre adoration, nos louanges, que tu nous accueilles dans ta présence, Seigneur. Cette session, on va faire un cours sur l'adoration. C'est peut-être le sujet le plus grand dans la Bible, parce que ça nous parle de notre relation avec toi, Seigneur. Je te prie, Père, de nous aider à comprendre ce que tu nous as révélé dans ta parole sur l'adoration. Je te prie, Père, de nous aider à grandir comme adorateurs aussi, Seigneur. Aide-nous, Père, à être des adorateurs en esprit et en vérité. Comme tu nous l'as enseigné, Jésus, on veut apprendre à te ressembler dans ta relation avec ton Père. On veut vivre, Seigneur, cette intimité, ce cœur qui est constamment à l'écoute pour faire la volonté du Père. On veut, Seigneur, que notre adoration ne se résume pas à des chants de louange le dimanche matin, mais à un cœur qui est disposé, qui te plaît, Seigneur, à un style de vie qui t'honore, Seigneur, tout au long de la semaine. Alors, viens nous rencontrer, viens nous instruire, Seigneur, et viens réformer, corriger, transformer, Seigneur, ce qui a transformé en nous pour que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Père. Amen. Amen. Alors, vous pouvez prendre place. Donc, tout le monde a pris les notes, ça va? Vous avez les notes? Juste un petit mot d'introduction avant d'aller dans la leçon de ce matin. La notion, l'idée de l'adoration, premièrement, c'est quelque chose qui est, je pense, assez étranger à notre culture de plus en plus séculière, qui se sert pas de ça, comprend pas ces concepts-là. C'est comme un vieux concept chrétien pour bien des gens. En même temps, c'est probablement l'idée première dans la majorité des religions, pas dans toutes les religions. Oh, bienvenue Camille, retour de Colombie. La notion, l'idée d'adoration est probablement l'idée la plus importante dans la majorité des religions. Donc, pour la majorité des gens sur la terre, cette idée-là de l'adoration, c'est quelque chose qui est très présente, d'accord? Dans les églises, évidemment, on s'en sert constamment. On sort de ce mot-là toujours, on veut adorer Dieu, on veut... Mais comme... Tout mot, toute idée qu'on répète, puis qu'on répète, puis qu'on répète, ça peut devenir assez creux. Ça peut devenir juste du langage qu'on utilise, dont on ne comprend pas bien le sens, puis qu'on n'a pas vraiment assimilé ça. Puis ça devient comme une espèce de discours de fond, tu sais, un peu comme « Bonjour mon frère ». Tu sais. Combien de fois on pense vraiment au fait qu'en Jésus-Christ, on est devenu frère? Tu sais. Ça, bon, c'est là. Que Dieu te bénisse. Tu sais. Ça perd de... Mais en réalité, le mot « adoration » est super important dans les Écritures. et comprendre qu'est-ce que ça veut dire, non pas comme nous on l'imagine, pas comme nous on le conçoit, parce qu'on se fait des idées nous-mêmes, mais comprendre comment Dieu nous révèle qu'il désire être adoré. Ce matin, une des choses qu'on va voir justement, c'est qu'une particularité de l'adoration chrétienne, c'est que nous adorons celui qui s'est révélé à nous. Et donc, on est béni, on est choyé dans le sens que je n'ai pas à développer comme mon idée sur l'adoration. J'ai pas à aller à tâtons intuitivement. Puis je sais que bien des gens aiment l'idée d'aller vers Dieu à tâtons, comme par intuition, puis un peu découvrir comment eux autres aimeraient adorer Dieu, tout ça. Mais les chrétiens, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On a une révélation. Et donc, on veut apprendre comment adorer. Puis ce thème-là de l'adoration n'est pas quelque chose qui est présent uniquement dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, ou uniquement dans le Nouveau Testament. C'est vraiment un des thèmes majeurs qui traverse toute la Bible. C'est comme l'essence de ce qu'est un être humain, c'est quelqu'un qui adore. Puis l'essence de ce qu'est un être humain qui marche avec Dieu, c'est quelqu'un qui adore Dieu. Donc, c'est présent dans toute la Bible. Et ce matin, on va commencer avec l'Ancien Testament pour aller vers cette base-là. Et si vous n'êtes pas familier avec l'étude de la parole de Dieu, si peut-être vous êtes chrétien de longue date, mais vous n'avez jamais étudié sérieusement les Écritures, ou peut-être que vous êtes plus récemment chrétien, l'Ancien Testament peut nous apparaître comme étrange, bizarre, parfois malaisant. Et puis on se dit, moi je suis quelqu'un du Nouveau Testament. J'ai souvent cité un ami à moi qui a fréquenté l'Église pendant plusieurs mois, puis je ne pense pas qu'il a saisi l'Évangile vraiment, mais souvent il me disait, à quelques reprises il m'a dit, Yannick, le Dieu de l'Ancien Testament, je ne suis pas capable. Je ne suis vraiment pas capable, mais c'est correct, Jésus, c'est bon. Tu sais. Et en me disant ça, lui, il ne réalisait pas, je lui avais partagé ça, mais j'ai dit, dans le fond, quand tu déclares ça, sans en avoir conscience, ce que tu me dis, c'est que tu n'as pas compris qui est Jésus. Tu n'as pas compris les enseignements de Jésus. Parce que les enseignements de Jésus s'inscrivent dans une parfaite continuité avec l'Ancien Testament. Bon, on pourrait aller plus loin et dire que Jésus, c'est la parole, puis c'est lui qui a inspiré aussi l'Ancien Testament, mais plus terre à terre, plus simplement que ça, il y a une continuité. Et donc, on va souvent dire que l'Ancien Testament est là pour nous aider à comprendre davantage les grandes idées du Nouveau Testament. Puis, bien des choses qui étaient en germe dans l'Ancien Testament, qui étaient des messages, des illustrations de ce qui s'en venait plus tard, nous sont révélés grâce au Nouveau Testament, grâce à la personne de Jésus-Christ. Fait que Jésus est vraiment la clé pour comprendre l'Ancien Testament, mais il n'y a pas de détachement entre les deux. Donc, ça fait du sens, l'anglicisme, mais c'est sensé, c'est raisonnable, c'est logique même de dire, je veux comprendre l'adoration dans l'Ancien Testament si je veux vraiment comprendre l'adoration dans le Nouveau Testament. D'autant plus que il y a une espèce de... Le Nouveau Testament est une réplique, pas dans le sens d'un duplicat, là, mais une réponse à quelque chose qui n'a pas marché dans l'Ancien Testament. C'était dans les desseins de Dieu. Dieu ne fait pas d'erreur. Ça devait se produire comme ça. Mais d'une certaine manière, c'est comme si quand on arrive dans le Nouveau Testament, on est au « take two », si je peux dire, du peuple de Dieu. Ce n'est pas tout à fait juste de dire ça, ça n'exprime pas tout, mais vous comprenez l'adoration qu'on va trouver, en fait, ce qu'on cite avec le titre, « En esprit, en vérité », Jésus est en train de dire, c'est correct, vous avez fait de votre mieux, là, puis bon, mais le jour s'en vient, où les adorateurs vont vraiment adorer en esprit, en vérité. Et donc, lorsque j'arrive dans le Nouveau Testament, j'arrive à l'expérience, à part le ciel et la présence de Dieu, à l'expérience ultime de l'adoration. Bien, l'ultime de quoi? L'ultime par rapport à l'Ancien Testament. Donc, tout ça se tient. Puis c'est vraiment important, c'est utile, c'est pertinent de comprendre l'adoration dans l'Ancien Testament. Ça va, ça? C'est assez clair? Oui? Donc, allons ensemble dans l'Ancien Testament, le psaume 147, versets 19 et 20. Je m'excuse, j'ai une oreille de boucher. C'est lui qui communique sa parole à Jacob et ses commandements, ses lois à Israël. Il ne l'a jamais fait pour aucun autre peuple. Aussi, ses lois leur restent inconnues. Loué soit l'Éternel. L'Ancien Testament, l'adoration dans l'Ancien Testament peut nous sembler étrange. Ça nous apparaît très rituel. Puis il faut comprendre que là, vous êtes dans une église, je ne parle pas du bâtiment, évangélique. Donc, on est une église protestante. On est à peu près dans le moment dans l'histoire de l'Église, la culture, même la microculture là, d'une Église évangélique baptiste, la moins ritualistique qui a existé à travers tout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament puis l'Église. Il y a des Églises évangéliques qui sont déjà plus liturgiques que nous, qui ont un rituel dans un certain sens, qu'ils pratiquent à toutes les semaines. Mais nous, on vit, bien, je veux dire, juste le fait que notre église se rassemble dans un centre d'achat, ça dit beaucoup de choses, d'accord? Fait que, où je veux en venir avec ça, c'est que la distance entre notre expérience, dimanche après dimanche, toute la semaine de l'adoration, peut sembler extraordinairement loin de ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament avec un temple, avec des sacrifices. C'est comme t'es dans un autre univers complètement. Nous, je sais pas, me semble que c'est comme naturel. T'sais. Tu fermes les yeux puis tu pries. T'as pas besoin d'aller voir le prêtre puis tout ça. Mais il faut comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait qu'on en est là où on est maintenant? Il faut comprendre d'où ça vient, tout ça dans l'Ancien Testament. Donc, c'est nécessaire de comprendre l'adoration dans l'Ancien Testament pour comprendre l'enseignement du Nouveau Testament sur l'adoration. Voici quelques thèmes que vous devez comprendre dans l'Ancien Testament pour bien comprendre l'adoration aujourd'hui. Les chrétiens, ceux qui suivent Jésus-Christ, doivent comprendre quelques thèmes, quelques concepts importants. La révélation, la rédemption, l'alliance entre Dieu et Israël, la vocation d'Israël. Ça, c'est des thèmes majeurs de l'Ancien Testament. Puis si je ne les comprends pas, il y a beaucoup de choses que je n'arriverai pas à saisir quand j'arrive dans le Nouveau Testament. Puis ma propre vision à moi de l'adoration va être faussée. Elle va être appauvrie si je ne comprends pas ces thèmes-là. Excusez-moi. Donc, il faut comprendre dans le contexte. Il faut comprendre dans le contexte de l'Ancien Testament pour ensuite saisir comment ils sont développés dans le Nouveau Testament. Les thèmes vont être transformés. Puis une des choses qu'on va faire tranquillement à travers le cours, c'est qu'on va aller voir les éléments de continuité puis les éléments de discontinuité. Les choses qui vraiment, comment est-ce qu'elles se transforment pour continuer ou comment même elles continuent sans même être transformées. Par exemple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette idée-là nous vient vraiment de l'Ancien Testament. Puis, je vous dirais qu'elle ne change en rien dans le Nouveau Testament. D'aucune manière. On est en parfaite continuité. Donc, dans ces thèmes-là, la révélation, la rédemption, l'alliance entre Dieu et Israël, la vocation d'Israël, ce sont des thèmes importants à comprendre. Puis une des choses qu'on va voir ensemble, c'est dans quelle mesure il y a continuité, dans quelle mesure il y a discontinuité, comment ça se transforme lorsque j'arrive dans le Nouveau Testament. Puis ils sont super importants pour pouvoir comprendre justement l'adoration. Une des erreurs que l'Église a faites à travers les âges, c'est de prendre directement des idées d'adoration dans l'Ancien Testament, puis de chercher à les reproduire le plus parfaitement possible dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous avez un exemple qui vous vient à l'esprit où l'Église à travers toute son histoire, a cherché à dupliquer des choses dans l'Ancien Testament sans avoir pris le temps de comprendre là où il y a une discontinuité, admettons, comment l'adoration se transforme? Est-ce que vous avez des exemples qui viennent à l'esprit, Camille? OK. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir un micro pour ceux qui auront des interventions dans mon cours, messieurs les techniciens David et Jonathan, mais je ne sais pas si c'est possible d'avoir un micro qui circule dans mon cours. Puis je pourrais le faire circuler moi-même avec des étudiants. Je vais juste répéter ce que Camille a répondu parce que c'est excellent. C'est, pour nous, au Québec, c'est comme la plus évidente. Dans le fond, l'Église catholique. L'Église catholique, vous commencez avec le bâtiment, puis vous regardez l'Eucharistie, puis l'Église catholique a cherché à reproduire l'adoration dans l'Ancien Testament. Ce qu'ils ont ajouté fondamentalement, c'est des notions autour de la personne de Jésus. Mais il y a plein d'éléments qui auraient dû être en discontinuité avec l'Ancien Testament, puis ils ne les ont pas mis en discontinuité, ils les ont mis en continuité. Donc, lorsqu'on mentionne le prêtre, par exemple, dans l'Ancien Testament, tu peux le laisser là, puis on va le faire circuler. Merci, David. Le prêtre, le sacrificateur, les souverains sacrificateurs dans l'Ancien Testament étaient vraiment, dans un sens, les médiateurs entre Dieu et le peuple. Or, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, on a un seul médiateur, c'est Jésus-Christ, et on est tous faits, tous les chrétiens, des prêtres. Donc, en principe, il n'y a plus d'intermédiaire. Le pasteur n'est jamais l'intermédiaire entre Dieu et l'Église. C'est pas ça qu'on est. Ou entre Dieu et un individu. Je peux être un frère qui intercède, mais ça, tous les chrétiens peuvent le faire aussi. Vous voyez? Donc, ça, c'est un exemple. Il y avait discontinuité, puis l'Église catholique n'a pas su reconnaître et appliquer cela. Et là, on dit l'Église catholique, mais ça remonte quand même assez loin dans l'histoire de l'Église. Donc, ça, c'est un exemple. Après ça, exactement, toute la notion de tantôt, on va prendre le repas du Seigneur. Fait qu'un bel exemple, c'est ça. Lorsqu'on prend le repas du Seigneur, nous, on l'articule en disant, c'est un mémorial. D'accord? On pourrait dire un symbole. Mais on ne croit pas que le pain qu'on va manger tantôt, puis le jus de raisin qu'on va boire, que c'est littéralement le corps et le sang de Jésus-Christ. Or, dans l'Église catholique, au moment de l'Eucharistie, il y a vraiment une transsubstantiation dans leur compréhension. Au moment où le pain et le vin sont consacrés, ils deviennent littéralement, d'accord, le corps de Christ et le sang de Christ. Tant et si bien que si c'est perdu, on a perdu le corps de Christ, il faut aller le chercher, d'accord? Si vous avez lu l'histoire de Shinniki, il y a des histoires un peu cocasse dans notre perspective protestante, là, mais assez pathétique aussi. Là. D'accord? Donc, c'est vraiment le corps de Christ. Puis tout ça permet de concentrer énormément de pouvoir dans ce prêtre-là qui est l'intermédiaire. Fait qu'on peut lire là-dedans des stratégies aussi pour avoir une emprise sur l'Église. On garde vraiment une ligne d'autorité très, très claire. Mais ce qui est le plus malheureux dans ça, c'est pas ça. Ce qui est le plus malheureux, au-delà de ce que ça peut permettre pour contrôler les gens, c'est que ça dénature l'adoration à la lumière du Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, il n'y a plus ça. Le sacrifice a été accompli. Puis Jésus dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » On ne refait pas le sacrifice. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça va? Oui? Non? Oui? C'est important parce que, vous voyez, ça, c'est un exemple où il aurait dû y avoir une discontinuité, vraiment une transformation de notre compréhension de l'adoration. Puis elle n'a pas eu lieu. Puis ça dénature le message de l'Évangile, l'œuvre de Jésus-Christ est dénaturée. Puis en fin de compte, même notre adoration est dénaturée. Fait que c'est un très, très bon exemple qui est probablement le plus fort pour nous. Puis vous pourriez juste étudier toute la construction du bâtiment de l'Église, les autels, tout ça. Tout va dans ce sens-là, avec l'autel, avec... Il y avait vraiment l'idée du lieu très saint, du lieu saint, puis on recréait tout ça, alors que l'Évangile vient faire tomber tous ces murs-là. L'Évangile fait vraiment tomber tous ces murs-là, puis eux, ils ont tous reconstruit ces murs-là. Tant et si bien que lorsqu'on a vécu la Révolution tranquille au Québec, finalement, il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'Église catholique, mais il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui ont quitté le christianisme parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chrétiens dans l'Église. L'Église catholique s'est vidée en quelques mois, d'accord, de ses catholiques romains, Mais il y a très peu de chrétiens qui ont quitté le christianisme parce qu'il y avait très, très peu de chrétiens dans les églises. Donc, je ne dis pas qu'il n'y avait aucun chrétien dans toutes ces églises-là. C'est surprenant de voir à quel point on rencontre des gens, des fois, qui ont vraiment saisi l'Évangile, puis manque d'instruction, tout ça. Mais il y en avait très, très peu. Puis c'est pour ça qu'on a une déchristianisation de notre culture québécoise à une vitesse grand V. C'est très impressionnant. Mais c'est parce que le christianisme était plutôt un produit culturel que l'objet de la foi d'une génération. D'accord? Parce que l'Évangile avait été tellement dénaturé à travers les siècles dans l'Église catholique que finalement, il n'y a plus de substance. C'est un ensemble de rituels. Puis c'est très puissant, ça fonctionne. J'ai pas été élevé dans l'Église catholique. J'ai été baptisé bébé quand j'étais catholique. Quand j'étais bébé, j'ai été baptisé catholique. Mais ma mère, mon primaire, j'allais tout faire dans une école protestante. J'ai jamais fait ma première communion ou quoi que ce soit. Puis si je rentre dans une belle cathédrale, des fois, j'ai comme, aïe, aïe, c'est vraiment fort. J'ai le feeling que Dieu est ici. C'est pas vrai, vous comprenez? C'est un effet de l'architecture. C'est un effet de tout ce qu'ils ont créé. Je veux dire, dans une Dieu est beaucoup plus présent si je vais marcher dans la forêt que si je suis dans une église catholique où trois quarts de ce qui est écrit sur les murs, c'est des choses qui blasphèment puis qui s'en prennent à Dieu, tu sais, puis tu as le cœur, le Saint-Cœur de Marie, puis fait qu'il y a plein d'affaires, je m'excuse de dire comme ça, mais vraiment diaboliques qui sont là. Puis pourtant, je rentre là-dedans, puis je suis là comme, ouais, c'est fort, c'est vraiment fort. Donc on comprend l'idée, mais c'est vraiment dénaturer l'Évangile. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Ou ça va? Si jamais je vous scandalise avec mes propos, venez me voir. Je vais chercher à les expliquer un peu mieux. Donc, je suis toujours à la page 2. Adoration et révélation. La relation entre l'adoration et la révélation. Comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, c'est vraiment une des particularités du christianisme et du judaïsme, on est dans l'Ancien Testament, que nous ne croyons pas qu'il est donné à l'être humain de connaître véritablement Dieu si Dieu ne se révèle pas à nous. Donc, on croit premièrement que Dieu se révèle à travers la nature. Puis, il y a plein, je vous dirais, la majorité des gens dans le monde, la grande majorité, croient en un Dieu quelconque, et probablement que la totalité d'entre eux croient que Dieu se révèle au moins en partie à travers la nature. D'accord? Donc, on croit qu'il y a une révélation de Dieu. On appelle ça la révélation générale en théologie. Et donc, c'est vrai, je peux aller sur un lac à la pêche, puis là, il y a un coucher de soleil, puis je dis Dieu. Tu sais, Dieu est derrière ça, c'est pas possible. Je peux accoucher un enfant, puis voir un petit bébé, puis dire aïe, aïe, okay, Dieu existe, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est la révélation générale. Mais nous croyons que la révélation qu'on peut recevoir, donc qu'on va comme découvrir par intuition, par la raison, en observant la nature, est extrêmement limitée. Ce que nous connaissons de Dieu nous vient par révélation spéciale. En théologie, on parle de la révélation générale, la révélation spéciale. Elle est spéciale parce qu'elle est particulière, elle est dans un livre qui est la Bible. Et donc, c'est une des particularités. Quand vous jasez avec les gens, puis tu jases avec un collègue de travail, puis il dit « Oh, moi aussi, je crois en Dieu », tu sais. OK, puis qu'est-ce que tu fais avec ce Dieu-là? Est-ce que tu le remercies pour ce qu'il a fait de bien dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que « Oh, oui, je suis très reconnaissant à Dieu », tout ça. Puis comment l'as-tu connu, ce Dieu-là? Je le connais. Tu sais, c'est un peu ça qu'on va entendre, ça. Moi, je le connais, tu sais. Je le ressens, tu sais. OK, c'est quoi son nom? Qu'est-ce qu'il mange le soir au souper? Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui lui déplaît? C'est quoi ses plans pour l'humanité? Puis ça, c'est une belle conversation à avoir avec les gens. Paul le ferait comme ça. Paul arrive à Athènes, puis il dit, « Je vois que vous êtes tous des gens très religieux. » Puis il les honore pour ça, il reconnaît ça. Mais partant de là, il s'en va vers celui qui est la révélation de Dieu, Jésus-Christ. D'accord? Et donc, c'est une des particularités du christianisme, du judaïsme, de croire que nous ne pouvons pas dicter. T'es-tu rendu assez à la technique, toi, Yannick? Bienvenue. Bienvenue. C'est comme un flashback. C'est une des particularités du christianisme et du judaïsme. C'est qu'on connaît comment adorer Dieu sur la base de la manière qu'il se révèle. Puis, une des manières simples de l'expliquer aux gens lorsqu'on est en train de jaser un peu avec eux, puis des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est simplement de leur dire, écoute, si vraiment tu veux me connaître, tu vas m'écouter parler longtemps. Tu peux m'observer, tu vas connaître beaucoup de choses sur moi, mais tu vas me poser 1 million de questions pour me connaître. Puis si je veux te connaître, c'est ça que je vais faire. Je vais t'écouter parler longtemps. Tu sais. Puis Dieu nous a parlé longtemps. 66 livres. Ça prend du temps à lire, hein? Quand on s'y met et à l'étudier. Donc Dieu nous a parlé beaucoup. Il nous a fait beaucoup connaître qui il est, ce qu'il attend de nous, comment il se comporte avec nous, comment on va l'adorer. Et ça, c'est une des particularités les plus importantes. C'est difficile à communiquer à nos contemporains. Cette idée qu'ils ne peuvent pas vraiment connaître Dieu sans passer par la révélation spéciale de Dieu. D'accord? C'est difficile. Certaines pistes ou certaines clés qui peuvent nous aider à discuter avec eux, c'est que dans leur vision, Dieu n'est pas une personne. Dans leur vision, Dieu n'est pas une personne. D'accord? Puis, probablement qu'ils vont vous dire, non, je pense que c'est probablement une personne. OK, mais si tu veux connaître une personne, tu as différents moyens de le faire. Tu pourrais rentrer dans sa maison. Tu sais, il dit, tiens, je te laisse les clés. Rentre dans ma maison, promène-toi dans ma maison. Tu vas pouvoir me connaître. Là, tu es dans la maison de Dieu, tu es sur la terre, puis tu te promènes partout sur la terre. Tu peux connaître plein de choses, tu sais. Mais si vraiment tu veux connaître une personne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller l'écouter. Puis là, le dilemme qu'ils ont, évidemment, c'est de dire, OK, mais attends un peu, là, c'est parce que tu veux me dire que la révélation spéciale se passe à travers juste un livre, puis donc c'est juste les chrétiens qui possèdent la révélation spéciale. T'sais. Ça, c'est correct, on n'a pas le choix, on veut arriver là. Je dois arriver là. Puis à ce moment-là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais leur dire, t'as raison, ça peut sembler extrêmement arrogant, parce que c'est sans équivoque, c'est très unique, ça laisse de la place à personne d'autre, mais c'est clairement ce que la Bible affirme. Et si tu la rejettes, cette affirmation-là, juste sur la base du fait que tu te dis, c'est pas possible, ça n'a pas de bon sens. T'sais. OK. S'il y avait plusieurs biographies qui circulaient sur moi, si j'étais un personnage public, là, tu sais, il y a bien des biographies qui ont été écrites sur Winston Churchill. Est-ce qu'elles disent toute la vérité? Bien, il y a des biographies qui sont, comment on appelle ça? Est-ce qu'une biographie est approuvée par l'auteur? Par le sujet lui-même, rappelez-vous? Une biographie autorisée, quelque chose comme ça. La Bible affirme qu'elle est la biographie autorisée sur Dieu. Fait que tu peux prendre le temps de la lire puis de faire une idée. Puis si après ce Dieu-là qui est présenté dans la Bible te semble inférieur à un autre Dieu révélé dans d'autres livres, tu feras ton choix. Tu feras ton choix. Mais c'est ce que la Bible affirme, par exemple. C'est un des concepts qui est difficile à communiquer à notre époque parce que les gens ne veulent pas qu'il y ait une seule vérité. Automatiquement, ils voient une injustice dans ça. La révélation et l'alliance. Alors, un fait distinctif de la religion, là, je vous initie un petit peu de vocabulaire, vétérotestamentaire, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Si on parlait du Nouveau Testament, on dirait néo-testamentaire. Donc, un des faits distinctifs, je suis au haut de la page 3, de la religion vétérotestamentaire, cette révélation ne se limita nullement à des phénomènes surnaturels ou à des manifestations de la puissance divine dans la nature. Au cœur des rencontres des patriarches avec Dieu se trouvaient les promesses et les exigences de l'Alliance. Selon la Bible, avant même l'établissement de cette Alliance, ceux qui invoquèrent Dieu et cherchèrent à le servir agirent ainsi dans le contexte d'une série de révélations de sa part. Donc Dieu se révèle à travers les patriarches, à travers Moïse, Dieu va parler à Moïse, puis Moïse va communiquer ça au peuple. Ces choses-là vont être rédigées, et donc on va découvrir qui est Dieu. À travers ça, Dieu va proposer, va offrir à un peuple d'entrer dans une alliance avec lui. Puis la notion d'alliance est fondamentale à l'idée d'adoration. L'adoration commence par une révélation. Je vais aimer, adorer, servir celui que je connais à travers le fait qu'il s'est fait connaître à moi. mais je vais entrer avec lui dans une relation qui va être scellée par une alliance. C'est pour ça que le mariage, nous dit l'apôtre Paul, est une illustration de l'Évangile, de l'union entre Christ et son Église. D'accord? Parce que c'est une alliance que j'ai contractée avec mon épouse il y a 26 ans, bientôt 27 ans. C'est une alliance qu'on a contractée ensemble. Et ça, c'est une des particularités aussi de l'adoration dans l'Ancien Testament. On découvre que l'adoration, je deviens adorateur quand je contracte une alliance avec Dieu. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Ça va être comme ça aussi dans le Nouveau Testament, avec la Nouvelle Alliance. Ainsi, l'adoration, selon la Bible, se distingue en ce qu'il s'agit d'une réponse à l'initiative de Dieu, soit sa révélation, et cette révélation prend la forme d'une alliance entre Dieu et ceux qui l'adorent. Notre adoration est toujours une réponse à Dieu. Toujours. C'est ce qui fait que je vais prier pour les gens autour de moi qui ne sont pas chrétiens, puis je vais dire, Seigneur, révèle-toi à eux. Fais-toi connaître à eux. Parce qu'ils sont comme le reste des hommes, ils avancent à tâtons avec la révélation générale, puis avec un cœur qui est rebelle contre toi. Et il faut que toi, tu viennes par ton esprit les saisir pour qu'ils acceptent de pencher les regards sur la révélation qui nous vient de la Bible, sur la personne centrale de cette révélation-là qui est Jésus-Christ. Donc, je prie pour que Dieu dispose leur cœur afin qu'ils puissent recevoir cette révélation-là. L'adoration commence là. Il faut qu'ils acceptent cette révélation-là. Une fois qu'ils reçoivent cette révélation, ils vont être invités à entrer dans une alliance. Et donc, ça, c'est les particularités de l'adoration dans l'Ancien Testament. Au Mont Sinaï, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le moment le plus fort dans tout l'Ancien Testament de la révélation de Dieu au peuple d'Israël. Le plus fort parce que c'est un moment où Dieu ne passe pas par ses prophètes, mais il se manifeste au peuple à ce moment-là. Tant et si bien que c'est le peuple qui dit « Ok, arrête de parler, on va t'envoyer Moïse, puis il parlera à ton nom, parce que c'est beaucoup trop effrayant d'être directement en présence du Créateur de l'univers, du Dieu très saint. » Donc le mont Sinaï est le moment clé. La plus importante manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu au peuple d'Israël se produisit au mont Sinaï après la sortie d'Égypte. Et c'est à cet endroit-là que Dieu va faire connaître au peuple comment il veut être adoré. C'est au mont Sinaï. Donc, c'est le moment le plus fort pour découvrir beaucoup de choses sur l'adoration. Comment l'adorer? Je vous pose une question qui serait intéressante que vous fassiez. Moi, je veux vraiment vous encourager à prendre le temps de... Tu sais, quand tu arrives à la maison, tes notes, mets-les sur ton bureau. Puis un moment dans la semaine, pour ton temps avec Dieu, prends le temps juste d'aller répondre aux questions qu'il y a là. D'ici la fin du cours, je t'assure qu'il y a quelque chose qui va être... Soit tu vas avoir grandi comme adorateur, soit que tu vas avoir renouvelé quelque chose. Quelconque adorateur. Et donc, je pose la question, comment Dieu désire-t-il que nous l'adorions? Et à quelles conditions? Parce que la question demeure entière, Dieu ne change pas, puis il veut des adorateurs en esprit et en vérité. Ensuite de ça, l'adoration et la rédemption. L'idée qu'on voit qui est très, très forte dans l'Ancien Testament, puis qui nous aide à comprendre tout le Nouveau Testament, c'est que ceux qui deviennent des adorateurs, c'est des gens qui ont été rachetés. C'est des gens qui étaient ailleurs, qui servaient d'autres dieux. C'est des gens qui n'étaient pas admissibles dans la présence de Dieu. Donc, non seulement Dieu doit se faire connaître à des gens pour qu'ils les adorent, il doit les inviter dans une alliance, mais même pour qu'ils soient propres à entrer dans cette alliance-là, il faut qu'ils soient rachetés par Dieu, il faut qu'il y ait une rédemption. L'adoration du peuple de Dieu est habituellement présentée comme celle d'un peuple racheté. Ainsi, l'adoration agréée par Dieu ne doit rien à l'intuition ni à l'imagination humaine, mais tout à l'initiative divine. Donc, qu'est-ce qu'on trouve qui est déposé dans les premiers livres de la Bible? C'est l'idée que l'être humain par lui-même est impropre à adorer Dieu. Ça va contre l'intuition générale dans notre culture, d'accord? Les gens veulent chercher Dieu par eux-mêmes, puis ils pense que le simple fait qu'il soit reconnaissant, je pense qu'une des choses les plus communes dans notre culture actuellement, lorsqu'on pense à quelque chose qui ressemble à de l'adoration, c'est c'est être reconnaissant, remercier, be grateful. C'est partout dans la pensée positive, tout ça. Puis c'est rendu tellement bas que le but fondamental de ça, c'est juste de... Tu vas te sentir mieux si tu es reconnaissant que si tu es ingrat toute la journée. C'est même coupé de toute relation avec une divinité. Mais pour plusieurs, c'est plus que ça. Ils sont reconnaissants à la vie, reconnaissants à... Mais ce qu'ils pensent, c'est que, écoute, si je suis reconnaissant à la vie, qu'est-ce que la vie peut me demander de plus? Ça s'arrête là. Puis lorsqu'on arrive dans l'Ancien Testament, tout ce qui nous est révélé dans les premiers livres de la Bible, c'est que l'être humain est impropre à adorer Dieu. On n'est pas digne d'être des adorateurs. Vous le voyez très bien à partir de la Genèse. On est chassé, notre communion est brisée. Et tout ce qui va être déposé, le fondement qui est déposé dans le livre d'Exode, Nombre, Deutéronome, ce qui est déposé là, Lévitique, c'est comment peut-on être rendu propre à devenir des adorateurs de Dieu. Vous arrivez dans le Nouveau Testament, puis c'est la base là, de l'Évangile, là, d'accord? J'ai presque l'Évangile qui est résumé là. Il manque la personne de Jésus, là, mais je veux dire, c'est ça que j'ai là. L'Évangile, c'est que on a été créé à l'image de Dieu, notre communion avec Dieu a été brisée. Dieu désire qu'on soit en communion avec lui, qu'on soit des adorateurs. C'est impossible pour nous. Il nous est même impossible de le connaître sans qu'il se fasse connaître à nous. Une fois qu'il s'est fait connaître à nous, il va falloir qu'il nous rachète pour qu'on puisse entrer dans une alliance avec lui. Il va falloir qu'il nous rende propre à l'adorer, à pouvoir entrer dans cette communion-là avec lui. Donc, on voit toute la notion du rachat qui est présent, évidemment, lorsque le peuple est racheté de son esclavage en Égypte. Mais toute l'idée, lorsqu'on va voir ensuite le système sacrificiel qui va être mis en place, qui exprime ça. Exode 19, versets 4 à 6. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. » Je vous dirais que dans ces trois versets-là, vous avez l'adoration dans l'Ancien Testament. Presque tout est là. Vous avez été porté sur des ailes d'aigle, je vous ai amené à moi. Je vous ai racheté. Vous étiez esclave. Je vous ai racheté. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous êtes obéissant, si vous recevez ma révélation, et si vous gardez mon alliance, on entre ensemble dans une alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Dieu est déjà propriétaire de toutes choses. Mais vous, comme peuple, vous serez mon peuple à moi. Vous serez pour moi un royaume. Stéphane enseigne sur le royaume de Dieu. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Bon, on pourrait développer sur la notion de sainteté. Ça, on s'en va comme dans l'éthique de l'adoration, si je peux dire. Le peuple de Dieu est en train de pratiquer son adoration par nos rapports les uns avec les autres. On rend gloire à Dieu dans notre manière d'agir avec les autres êtres humains. Donc, vous avez presque tout là-dedans. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires sur ça? Ça va? On a un micro disponible. Ça va? Camille? Camille, juste là. Ah, il est juste ici en avant. Merci, John.
En fait...
Oui, t'es correct, t'es allumé.
C'est bon?
Oui.
En fait, ce qui est intéressant de ce que nous fais prendre conscience, c'est que dans la conception moderne ou sociale de l'adoration, être reconnaissant, c'est suffisant. Donc, pour être reconnaissant, on ne fait pas face à notre indignité. Mm-hmm. Donc, juste l'émotion, juste la bonne volonté suffit. La bonne volonté suffit pour se présenter devant Dieu.
Oui.
C'est vraiment le concept de l'indignité qui est comme pas là du tout, qui est complètement
oui.
parti.
Oui.
Peut-être avec la notion de péché aussi, c'est parti.
Oui.
Je ne sais pas, mais probablement.
Je te dirais oui, tu as tout à fait raison. Le concept, l'idée du fait qu'on est tantôt, je disais, impropre, on est indigne à adorer Dieu, est parti. Mais ça sous-entend aussi qu'il y a quelque chose d'autre qui vient avant, qui est parti. C'est l'idée que je m'en viens adorer une personne qui doit se faire connaître à moi. Fait que laissez-moi l'illustrer d'une manière différente. C'est comme le premier problème avant ça même. T'es marié, ou je sais pas moi, tu tombes en amour avec une femme, ou t'es une fille, tu tombes en amour avec un gars, tout ça. T'es marié, puis tu veux toujours aimer l'autre comme toi tu veux aimer l'autre, sans jamais l'écouter, sans jamais l'entendre. Tu ne sauras pas dans quelle mesure, bien, pour de vrai, ce que tu viens de faire là, c'est offensant. Ça ne lui fait pas plaisir, c'est même comme un manque de respect, parce que dans sa culture, c'est pas comme ça qu'on fait ça. Je reviens d'Haïti, là, c'est encore tout frais là, pour moi dans ma mémoire et dans mon expérience. Mais quand on s'en va là-bas, nous allons, comme missionnaires, entrer en relation avec une culture qui est extrêmement différente de nous. Puis c'est, puis on comprend sur le plan humain, c'est extraordinairement inapproprié pour nous d'arriver là-bas puis dire, comme des bons colonialistes, n'est-ce pas, on s'en vient vous apporter l'amour de Jésus, puis on va vous expliquer tout ce qui ne va pas dans votre culture, puis là, vous allez vous taire, OK? On va vous enseigner comment ça fonctionne. Puis je veux dire, c'est l'erreur qu'on fait. Tu arrives là-bas, puis là, tu t'en vas à Port-au-Prince, puis là, tu vois des montagnes de déchets, admettons. Puis là, tu dis, c'est pas possible. Je pense que je déménage ici, je m'en viens les aider à s'organiser. Tu as plein de jugements. Ils nous le disent, quand on s'en va là-bas, ils leur disent, dans les premières semaines, là, vous allez comme les juger sur un paquet d'affaires. T'sais. Bon, là, ça fait 2 ans que j'y vais. J'ai encore des fois comme un réflexe de juger. « Oh, mais c'est tellement prétentieux, je m'en vais là pour les connaître afin de pouvoir les aimer. » Mais il va falloir que j'accepte de les connaître pour pouvoir les aimer. Donc, tu as raison, Camille, lorsque tu dis, c'est toute la notion du fait qu'on est indigne d'adorer Dieu qui est disparu. C'est vrai. Avant ça, c'est toute la notion que je m'en vais adorer quelqu'un qui doit se faire connaître à moi. C'est dans la mesure où je vais vers la parole, puis que là, je vais... Parce que vous comprenez, notre culture n'a même plus la notion de péché. Donc, le bien, le mal, la sainteté, c'est plus là, tout ça. Fait, enlève toute la sainteté, Jésus, Dieu merci. C'est correct. Tantôt, je ne sais pas, moi, je suis marié, j'ai une relation intime avec mon épouse, mais je venais de consommer pendant 3 semaines de la pornographie. Puis finalement, j'étais avec elle, mais je n'étais pas tout à fait avec elle parce que j'étais là-bas. Puis là, après ça, je viens et je dis, « Ah, Seigneur, merci pour la sexualité. » Mais j'ai pas pris le temps de comprendre que non, Dieu n'est même pas honoré par tout ça. Là. C'est comme il y a plein d'affaires, tout croche dans tout ça. Il n'y a plus l'idée de péché, il n'y a plus l'idée de révélation. Là, je vais vers les Écritures, je lis les Écritures, puis là, je dis, aïe, mais je fais vraiment dur. Plus je découvre la sainteté, plus je dis, mais je suis corrompu jusqu'à la moelle des os, ça n'a aucun bon sens. Et là, je découvre que je suis impropre à m'approcher de Dieu. Mais en même temps, j'ai l'opportunité de découvrir combien Dieu est magnifique. OK, attends, l'amour, le mariage, la sainteté, la gloire, c'est tellement des choses que je ne concevais pas. Puis plus notre culture se paganise ou se sécularise, plus ce qu'elle a à découvrir sur la grandeur de Dieu est extraordinaire, parce que c'est deux mondes complètement différents. On s'en vient tranquillement jusqu'à l'étape où tu t'en vas comme missionnaire annoncer l'Évangile sur une île à des cannibales qui font juste faire des génocides perpétuels. Puis il y a certaines idées sur Dieu qui ont catché dans la nature, mais c'est tellement dénaturé qu'il n'y a comme presque plus rien. Puis là, tu leur parles de ce Dieu-là qui dit non, Dieu est venu mourir pour toi. Dieu a envoyé son Fils, puis il est mort pour toi. Tu ne vas pas aller te venger puis le tuer lui, parce que Dieu fait grâce, tu sais. De quoi tu parles? Il va falloir inventer des mots pour pouvoir dire ces choses-là. On s'en vient là au niveau de notre culture aussi. C'est là qu'on s'en va. Je vais m'arrêter ici. On va compléter. En fait, on a couvert l'essentiel du chapitre. Parce qu'après, je vais juste donner quelques illustrations à l'intérieur de ce chapitre-là. Donc, on verra si on arrive à couvrir 2 leçons la semaine prochaine. Mais ceux qui n'ont pas pris de cours avec moi, malheureusement, j'ai ce défaut-là de m'étirer. Alors, on va aller dans un mot de prière. Je veux juste vous rappeler, il y a un pad qui circule, jaune, où est-ce qu'il est rendu avec le crayon. Il est juste ici, c'est Gérard qui l'a. Donc, si vous voudriez être inscrit sur la liste d'envoi pour mon cours, recevoir les notes le vendredi à l'avance. Autrement, vous pouvez tout simplement aller les chercher sur le site web Et puis, le cours aussi en vidéo va être disponible là sur le site web. Donc, si vous manquez une leçon, vous pouvez y aller. Puis, moi, je vous dirais, vous avez une discussion avec un collègue de travail, tu sais, puis qui dit « Je comprends pas, mais je suis curieux. » Bien, vous pouvez être concret, vous pouvez lui dire « Regarde, j'ai commencé un cours à mon église. Va écouter la vidéo, puis on va en jaser en allant prendre un café cette semaine. » Puis, si ça t'intéresse, on va aller prendre quelques cassettes la prochaine semaine, puis tu vas saisir des choses. Parce que comme vous le voyez, quand je donne le cours, j'essaie de voir aussi comment on dialogue avec la culture, pas juste pour nous comme chrétiens, mais comment on dialogue avec des gens qui ne sont pas chrétiens et qui sont étrangers à tout ça. Je le fais pour deux raisons. Je le fais parce qu'on doit apprendre comme chrétiens à le faire, mais je le fais aussi parce qu'on vit dans cette culture-là, puis il y a des idées de la culture qui rentrent quand même. Puis il y a des choses qui se défont progressivement si on ne prend pas le temps de les identifier en disant « Regarde, peut-être que tu as commencé à croire ça. » Les chrétiens, par exemple, les églises, peuvent devenir universalistes. Il y a des chrétiens dans les églises qui se disent « Oh, mais en fin de compte, Dieu va sauver tout le monde. » Oh, OK, là j'ai dit « Il y a des chrétiens qui peuvent... » Bien, je pense que oui, ils ont bien compris l'Évangile, mais là, ils sont en train de perdre l'Évangile parce qu'ils ont commencé à adopter une valeur qu'il y a dans le monde qui dit « Non, non, mais c'est parce que l'amour ne peut pas faire que Dieu va donner des gens, par exemple. » Donc, je prends le temps volontairement de refaire comme un argument à partir de quelqu'un qui n'a pas les notions chrétiennes, aussi pour m'assurer que si vous avez comme tombé un peu dans le panneau, on puisse aller réviser ces choses-là. Ça va? On va être dans un mot de prière. Bien, Père éternel, merci pour ta révélation, Seigneur. Quel trésor, Seigneur, que ta parole pour te connaître, t'es infiniment plus beau que ce que la nature révèle de toi. Tu es infiniment plus riche que ce que cette nature extraordinaire que tu as créée nous révèle de toi. Ta parole est encore plus précieuse pour te connaître que ce qu'un coucher de soleil peut me faire connaître de toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que tu as couvert la distance pour que nous soyons rendus dignes par le sacrifice de Jésus sur la croix, à être des adorateurs, Seigneur. C'est ton œuvre de rachat en notre faveur qui nous a préparés à entrer dans ta présence, Seigneur. Et Seigneur, il nous est rappelé ce matin que, comme chrétiens, nous sommes entrés dans une alliance avec toi, un mariage avec toi, Seigneur, qui demande toute notre attention, tout notre amour, toute notre affection, notre fidélité à cette alliance, Seigneur. Enseigne-nous à t'adorer, Seigneur. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen.